Alors, la semaine dernière, j'avais commencé à ce que je veux continuer de faire aujourd'hui, c'est réfléchir sur la signification de l'anthropologie cognitive pour un anthropologue de terrain. En général, l'anthropologie cognitive est très éloignée de l'expérience de terrain et surtout du genre d'expérience de terrain qui caractérise le travail que des personnes comme moi faisons. C'est-à-dire un terrain où l'outil principal est peut-être de traîner dans des endroits pour des longues périodes, pour écouter ce que les gens disent, pour voir ce qu'ils font, participer un peu à leurs activités de notre mieux, mais très peu de faire des interviews, d'utiliser des méthodes de recherche formelles. Mais en écoutant les gens et en regardant ce qu'ils font, un autre exercice a lieu, qui est un exercice qui pourrait être décrit comme l'interprétation de ce qui se passe, mais que je préfère caractériser d'une autre manière, une espèce de, je crois que j'avais utilisé le mot la semaine dernière, de reverse engineering, d'ingénierie à l'envers, c'est-à-dire une ingénierie qui prend le produit fini et qui essaye de comprendre les mécanismes qui ont mené à ce produit fini, qui essaye de déconstruire, si vous voulez, l'objet qui est là. Et une grande partie de cette déconstruction de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, demande à imaginer les processus mentaux qui ont permis aux gens d'agir ou de dire ce qu'ils disent. Et c'est pour cette déconstruction, donc, que les théories psychologiques et autres sont essentielles. Et en particulier, ce qui m'intéresse, parce que c'est ce qui caractérise l'animal humain et le différencie des autres animaux, c'est que la construction qui produit ce qu'il dit et ce qu'il fait est non seulement le produit de capacités psychiques innées, redécouvertes dans un environnement spécifique considéré en termes des possibilités qu'il offre, ce que le psychologue Gibson a appelé affordances, les possibilités ouvertes avec les connaissances que l'on a, que l'on voit dans notre environnement, mais aussi parce que l'être humain, comme je l'ai souligné dans les premiers cours, est créé non pas uniquement par sa nature humaine, mais par les communications qu'il reçoit, l'endroit où il se trouve, dans le réseau de communication qui est la société à un moment particulier, le produit d'un immense brassage de communication que nous pouvons appeler l'histoire. Donc, ce que nous avons toujours essayé de comprendre quand nous voyons des gens dire des choses ou agir, c'est comment cette action est un produit synthétique de l'extérieur et de l'intérieur, pour le dire de la manière la plus simple. La semaine dernière, donc, je parlais des concepts et en particulier de la relation des concepts et des mots, parce que les mots sont tout à fait évidemment le genre de choses que nous rencontrons en tant qu'ethnologues sur notre terrain. Mais très rapidement et en utilisant les théories que nous avons sur les concepts, nous nous rendons compte que ce qui sous-tend que les concepts en eux-mêmes sont beaucoup plus complexes que l'on aurait pu le croire, en qu'ils ne sont pas simplement des catégorisations comme on avait le, comme on le pensait dans la philosophie traditionnelle, mais souvent des ensembles formés autour de prototypes avec des frontières peu claires, des enchevêtrements de théories de différents types, et que donc quand l'enfant apprend un mot, peut-être au premier stade, il apprend que un son particulier se réfère à un concept, un son particulier qu'il entend autour de lui se réfère à un concept qu'il a déjà formé, mais nous savons aussi qu'au fur et à mesure du développement cognitif, il y a une espèce d'interaction entre les informations extérieures qui lui viennent quand il apprend le mot. D'abord, le mot a le sens du concept qu'il avait déjà formé, mais le fait d'apprendre le mot et les communications avec autrui qui viennent du fait d'avoir appris le mot mènent à une transformation des concepts. Donc il y a une interaction continue, qui continue d'ailleurs tout au long de la vie, de l'apprentissage, de la compréhension de situations nouvelles. Et cette espèce d'interface entre l'extérieur et l'intérieur, une interface continue, est le sujet de ces cours. Et il montre aussi à quel point nous pouvons nous tromper facilement en croyant que nous comprenons ce que les gens font ou disent si nous ne pensons que dans une certaine manière comme une réflexion de leur connaissance et un système fixe. Une erreur que je crois que nous pouvons remarquer dans énormément des ethnographies traditionnelles qui imaginent que le travail de l'ethnologue est d'espèce de construire une espèce de carte de la compréhension des gens à un seul niveau, à un niveau plat, et oublie ce processus de transformation qui existe continuellement, de la complication, de la modification qu'il y a en dessous. En fin de compte, c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait commencer par simplement les pratiques que nous pouvons observer en tant qu'ethnologue sur le terrain. Je prends comme exemple la pratique de la sculpture sur bois, qui est quelque chose de très caractéristique de la très caractéristique des groupes de gens que j'ai étudiés à Madagascar, qui sont considérés comme des experts, des sculpteurs experts, et parmi qui il n'y en avait pas un que je connaissais bien. Ce qui m'a frappé en m'asseyant à côté de lui pendant qu'il faisait son travail, c'est à quel point il était peu capable d'expliquer ce qu'il faisait, de dire la raison pourquoi il faisait telle et telle chose. C'est pour ça que je suis très souvent douteux envers les explications d'art primitif qui disent « bon, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça représente tel schéma, etc. » si les gens qui les font ne savent pas trop ce qu'ils fabriquent, ne peuvent pas expliquer ça, c'est très difficile de dire « bon, ben voilà, c'est ça. » Mais plus utile que de voir ce qu'il fait, était d'essayer de réfléchir, de reconstruire dans l'imagination en partie, comment il en était venu là. très évidemment, toute une série de techniques étaient devenues tellement familières qu'il n'y réfléchissait pas, la manière dont il tenait ses outils, etc. Même les dessins qu'il faisait étaient les dessins qu'il avait vu faire, certains qu'il avait innovés, mais il ne se rappelait plus trop bien pourquoi il les avait innovés. Et tout s'était développé dans un ensemble de connaissances, mais ce qu'il produisait était magnifique, fait à une vitesse effarante. Et d'une certaine manière, cette vitesse, cette facilité est très liée au fait qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il faisait. Car nous savons que pour toutes les pratiques, une espèce d'emmagasinage des mouvements, des idées a lieu quand on devient un expert. Il y a énormément d'études en psychologie sur ce que c'est que de devenir un expert. Et il y a quelque chose d'extrêmement frappant quand on étudie, par exemple, il y a énormément d'études qui ont été faites sur la conduite automobile et les constructeurs d'automobiles et les gens qui veulent diminuer les accidents ont étudié en grand détail comment les gens apprennent à conduire. Et quand on regarde ce qui se passe, l'apprentissage va comme ça, toute une période très lente. En général, une période de contact avec un enseignant qui enseigne la conduite automobile. Et puis brusquement, on a une espèce d'accélération que personne ne comprend trop bien. Et ensuite, une espèce de plateau. Cette accélération a été souvent suggéré que cette accélération est liée à une réorganisation fondamentale de ce qu'on a appris. On apprend des petits morceaux, on les garde d'une manière séquentielle, mais que ce qui est nécessaire pour vraiment savoir est une espèce de réorganisation des neurones dans des espèces de petits réseaux. C'est le genre de choses dont je parle est lié aux théories que certains de vous connaîtront qui sont appelées des théories connexionnistes. Mais enfin, ce n'est pas nécessaire d'avoir en particulier ce genre de théorie. Et que donc, il y a une réorganisation fondamentale de la nature du savoir qui est totalement différent de la manière de ce qu'on a reçu de l'extérieur. Donc, nous avons très caractéristiquement dans l'apprentissage, une capacité de prendre des informations qui viennent de l'extérieur, mais que pour les rendre opératives, pour pouvoir vraiment bien conduire, il faut les réorganiser d'une manière qui n'a rien à voir avec la manière dont on les a obtenues de l'extérieur, et que précisément parce qu'elles ont été réorganisées de cette manière, il est très très difficile d'en parler. Parce que cette réorganisation est totalement différente de la nature du langage. Donc, le fait que le sculpteur, apparemment, produisait ses sculptures avec tellement d'aisance est lié au fait qu'il ne pouvait pas expliquer exactement ce qu'il faisait. Cette réorganisation est due à des caractères psychiques du cerveau humain. Donc nous pouvons voir l'interaction entre les informations qui venaient de l'extérieur et les capacités du cerveau qui produisent quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est cela qui est très caractéristique des humains, qui montre encore une fois à quel point nous ne pouvons pas il est très très difficile de décrire la connaissance, le savoir d'un sculpteur tel que celui dont je parle, d'une manière qui ne prend pas en compte la nature psychologique et neurologique de l'apprentissage, et parce que d'une certaine manière, et qui ne pourrait pas être basé sur les réponses que les gens donneraient à des questions, parce que ce n'est que en ces termes de cette combinaison que le savoir existe. Et je vous rappelle les thèmes que j'avais soulignés dans les premières leçons, comment d'une certaine manière toutes les théories anthropologiques sont une espèce d'équilibre entre des théories évolutionnistes qui expliquent le développement au cours de l'évolution du genre d'animal qu'est un être humain avec le genre de cerveau très très particulier qui le caractérise, et le caractère particulier, on pourrait dire le caractère culturel ou le caractère historique des humains, qui à cause de la nature même de leur cerveau, sont capables d'être créés, non pas par ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains, mais en termes de ce qui vient de l'extérieur, d'autrui, ces communications venant d'autrui, faisant partie d'une immense conversation qui remonte à des siècles, à des millénaires d'intercommunication au moment où il se trouve. Je prends l'exemple des techniques pour souligner la différence entre ce qu'on pourrait appeler langage et connaissance. Et il y a d'autres exemples qui ont été illustrés récemment dans la littérature psychologique, qui me paraissent particulièrement intéressants. En particulier, les travaux d'une psychologue américaine du nom de Goldin Meadows, psychologue et anthropologue d'ailleurs, travaillant à l'Université de Chicago, mais qui s'est beaucoup intéressée à l'apprentissage, et en particulier elle a beaucoup travaillé dans les écoles américaines s'intéressant à l'apprentissage des mathématiques et d'autres connaissances de base. Une des choses que Goldin Meadows a étudiées, que très peu d'autres gens ont étudiées d'une manière systématique, sont les gestes qui accompagnent le langage et le discours. Nous faisons tous des gestes qui accompagnent le langage et le discours, et nous savons depuis très longtemps que ces gestes sont des éléments essentiels de la communication. La communication passe beaucoup mieux si nous pouvons faire des gestes. Beaucoup d'expériences peuvent montrer que si on cache les gestes des gens, ils ont beaucoup plus de mal à décrypter des propositions ambiguës, etc. Mais ce que Goldin Meadows a remarqué, a maintenant démontré d'une manière très étonnante, c'est le rôle de ces gestes dans l'apprentissage. De deux manières. La première, elle a étudié les enfants faisant face à une des tâches piagétiennes les plus connues, celle de la conservation, que je suis sûr que vous avez tous entendu parler. Vous savez que les jeunes enfants, si on leur montre deux récipients, deux tubes comme ça, ils devraient être de la même taille, remplis d'eau, et on leur demande dans lequel il y a le plus d'eau, ils vous disent c'est pareil. Et on dit, bon, ben attendez un instant, on verse le contenu de celui-là dans un récipient de cette forme. Et les enfants disent, ah non, maintenant, il y en a plus dans celui-là. Après un certain stade, les enfants comprennent que c'est la même quantité, quoique le volume est conservé. Mais... que le volume est conservé. Et alors, ce phénomène, ce stade, si vous voulez, dans les théories de Piaget, a souvent intéressé les psychologues et surtout les psychologues de l'éducation. Mais ce que Golden Meadows a fait, c'est en essayant d'étudier les enfants au stade de transition. Et elle trouve qu'il y a un stade où les enfants, quand on leur demande, des enfants qui n'ont pas encore compris qu'il y a la même quantité d'eau là et là, qu'il y a un stade où ils commencent à faire des gestes différents. Alors si on leur demande est-ce qu'il y a plus d'eau ici ou là, ils disent, ouais, il y en a moins là, mais ils commencent à faire des gestes qui suggèrent, qui commencent à prendre en compte la largeur du récipient plat et large. Et quand ils commencent à faire ces gestes, on peut prédire que très très peu après, ils comprendront qu'il y a la même quantité d'eau dans les deux. D'une certaine manière, donc, il y a une compréhension qui commence à s'établir avant la compréhension linguistique, avant que l'enfant puisse répondre « oui, c'est pareil ». Il continue apparemment à répondre comme l'enfant plus jeune, mais ses gestes prédisent, d'une certaine manière, qu'il va réussir la tâche. Et ce qui montre à quel point on ne peut pas simplement se fier à la compréhension linguistique pour savoir ce que l'enfant entend. De même manière, elle a étudié la communication entre un enseignant et un enfant quand l'enseignant essaye d'apprendre un enfant, une nouvelle opération mathématique. Et elle a pu montrer que, avant que l'enfant comprenne ce que l'enseignant essaye de lui apprendre, il y a un stade de coordination entre les mouvements du professeur et de l'enfant. Un stade assez long, mais qui prédit Quand ce moment, c'est comme si la communication commençait à s'établir avant le langage, à travers les mouvements. Donc je vous donne ces exemples parce qu'ils sont assez spectaculaires et ils sont tout à fait nouveaux, pour montrer à quel point nous ne pouvons pas penser que le langage est un outil très transparent pour comprendre le savoir, ces exemples. Qu'on ne peut pas comprendre le savoir des gens que nous étudions, que nous ne pouvons pas comprendre directement quels sont les éléments qui ont permis de comprendre, de construire le phénomène, si vous voulez, le phénomène de surface que nous rencontrons dans sur le terrain. Et pour vous montrer que ce ne sont pas simplement des spéculations théoriques, je vais vous donner un exemple de travaux que j'ai fait depuis plusieurs années avec la psychologue américaine Susan Carey et ma collègue Rita Astuti à propos de la compréhension de ce que c'est que la parenté à Madagascar. Parmi différents groupes. Alors, pour comprendre la signification de ce que nous avons fait, il faudrait que je vous explique tout d'abord la situation théorique dans l'anthropologie de la parenté. Il y a eu, depuis les années 1970 à peu près, une réaction très forte contre les études de parenté que vous connaissez peut-être par les travaux de Lévi-Strauss, qui essayent de comprendre les différents systèmes de parenté comme les différents systèmes de structuraux d'échange ou autres. Parce que toute une série d'auteurs, en commençant avec Needham et ensuite l'Américain Schneider, ont insisté que ce que nous appelons la parenté n'est pas vraiment quelque chose que nous retrouvons dans d'autres sociétés. C'est compris d'une manière totalement différente et que donc ces grandes comparaisons de systèmes de parenté sont des systèmes sont des comparaisons de poires et de pommes. Sans essayer que l'idée même d'étude générale de la parenté n'est pas possible. Et en particulier, comme exemple, l'exemple qui avait été donné par beaucoup des auteurs qui ont critiqué les études de la parenté forte, étaient des systèmes qui ressemble au système malgache, où il est très courant de rencontrer des gens qui vous expliquent qu'on devient le genre de personne qu'on est, non pas par sa naissance, mais par le travail que l'on fait, les gens qui vous entourent. Et il y a énormément de les gens vous disent et très très souvent que on devient et par son corps et par sa pensée transformé, on est transformé par les contacts avec les gens qui vous entourent, avec l'environnement matériel et productif qui vous entoure. Et alors, aurait dit Schneider ou Needham et bien d'autres, c'est ridicule de comparer un système de parenté européen qui est basé sur l'idée que l'unité, l'élément de base de comparaison est la naissance, la filiation. Avec des systèmes comme ça, parce que ça n'est simplement pas le même genre de choses. C'est un raisonnement fortement culturaliste qui dit, bon, ben, les gens comprennent la vie, ce que c'est que d'être un parent ou un enfant d'une manière totalement différente dans différentes cultures. Alors, pour voir ça avec plus de précision, nous avons posé nous avons utilisé une technique que je ne vais pas décrire en détail, mais dont la base est, au lieu d'écouter ces déclarations sur lesquelles était fondée cette idée que là nous avions une espèce d'idée de ce qu'est la parenté qui était totalement incommensurable, incomparable avec les idées de la parenté européenne, nous avons pensé qu'il faudrait peut-être mieux demander aux gens de faire des inférences en apportant d'ailleurs une tâche psychologique qui avait été utilisée et développée par un nombre de psychologues américains. Alors ce que nous avons demandé, c'était très simple. Nous avons raconté aux gens une petite histoire en disant voilà, il y a tel enfant qui est né dans famille A, qui a certaines caractéristiques. À la naissance, il est transféré dans famille B. Qu'est-ce que vous croyez? Quelles seront les caractéristiques de l'enfant? Alors, si dans une famille, ils avaient des cheveux raides et dans l'autre famille, des cheveux bouclés, s'il a été transféré de famille A à famille B, est-ce que vous croyez si la famille A a des cheveux bouclés et famille B des cheveux raides, est-ce que vous croyez que l'enfant aura des cheveux bouclés ou raides? En Europe, les gens disent bouclés. Mais d'après la théorie qu'imputaient des auteurs comme Schneider ou Needham, ils auraient dû répondre, parce que c'est une autre culture où on comprend le développement de la personne en temps de son environnement, les cheveux raides. Les résultats sont très compliqués, mais plus ou moins, ils contredisent les théories de Schneider et de Needham. Nos résultats contredisent les théories de Schneider et Needham en ce qu'il montre que les gens font exactement les mêmes inférences, les adultes en tout cas, font à peu près exactement les mêmes inférences que sont faites aux États-Unis, qui était l'autre endroit où ce genre de travail a été fait. Alors, bon, ça c'est bien pour faire un pied de nez aux culturalistes américains, mais d'une certaine manière, ça souligne un problème encore plus aigu. Pourquoi est-ce que les gens vous disent, parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils vous disent, que les enfants ne ressemblent pas à leurs enfants, qu'ils deviennent comme les gens qui les élèvent physiquement? Pourquoi est-ce que le genre de déclaration qui avait été à la base de ces théories culturalistes de la parenté, pourquoi est-ce qu'elles existent? Parce qu'elles existent, c'était pas une fantaisie de la part de ces auteurs. Bien, la réponse que Astuti et moi aurions tendance à donner à cela est que nous avons affaire à des propositions de différents degrés. Et peut-être, pour expliquer ce qu'on veut dire, on souligne un élément d'ethnographie qui a souvent été oublié, que par exemple dans les familles malgaches, on souligne, dans les sociétés malgaches concernées, on souligne très souvent qu'il est mal quand un enfant insiste à vivre entièrement chez ses parents et ne pas passer du temps chez d'autres personnes dans la communauté dans laquelle il vit. L'enfant qui refuse de manger un repas en dehors de sa famille, qui veut dormir là tous les soirs, etc., est un enfant qui est d'une certaine manière un enfant antisocial, asocial. Et on n'a pas de difficulté à comprendre ce qui est exprimé dans cette idée qu'en fin de compte, la société, la base de la société est beaucoup plus large que la famille est comme dans beaucoup, et d'une certaine manière un élément contre quelque chose contre la société si la famille s'isole, et que donc il y a toute une espèce de philosophie sociologique qui dit qu'il est mal qu'être vraiment humain, je ne peux pas vous donner les détails sur lesquels on se base pour dire ça, mais que pour être vraiment humain, c'est de se laisser, de devenir un enfant de gens qui ne sont pas simplement vos propres parents, de se laisser transformer, associer à du travail collectif, à participer à une vie villageoise, etc. Et que les remarques qui ont été qui avaient été prises comme base de l'ethnographie sont de cet ordre. Et qu'en fin de compte, c'est ça qu'on dit normalement. C'est pas la peine de dire les évidences que tout le monde connaît. Parce que ce dont on parle, ce qu'on essaye d'expliquer à l'anthropologue, est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant, d'une certaine manière. De la manière si on explique qu'est-ce que c'est beaucoup plus intéressant, c'est de ça dont on parle, mais quand on parle de ce genre de choses, ça sous-entend d'autres théories, d'autres idées qui, en fin de compte, donnent un sens à ce qui est dit, mais qui ne sont pas exprimées. Donc, dans cet exemple, ce que les gens vous disent est déjà à un niveau qui sous-entend d'autres niveaux, d'autres spéculations beaucoup, beaucoup plus compliquées. Et que donc, on ne peut pas simplement imaginer la culture comme un phénomène simple, plat, à un seul niveau, comme nous voudrions suggérer, est le cas dans beaucoup de travaux anthropologiques qui vont ensuite à caractériser telle culture, mettant tel genre, etc., etc. Dans cette étude, nous avons aussi essayé de suivre le développement cognitif des enfants pour voir comment celui-là changeait au fur et à mesure de leur vie. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce qui nous paraît, et qu'après un premier stade où les gosses sont un peu embrouillés, mais enfin ça c'est peut-être parce qu'ils sont embrouillés par les questions qu'on leur pose, ils ont tellement peu l'habitude, c'est tellement difficile de travailler avec des très jeunes enfants, on arrive à un stade où les enfants répètent les espèces de phrases toutes faites, qui sont d'ailleurs les phrases qui ont été utilisées pour la construction des ethnographies classiques, mais qu'on peut montrer qu'à ce stade intermédiaire, ils ne peuvent pas faire d'opérations, ils ne peuvent pas jouer avec, ils ne peuvent pas les utiliser, ils peuvent les répéter, c'est tout. D'une certaine manière, nous dirions qu'ils ne les comprennent pas, mais ils comprennent que c'est ça qu'on dit quand on parle de ce genre de choses. Tandis que les adultes, au contraire, disent la même chose, mais alors ils peuvent jouer avec, ils peuvent opérer toutes sortes de jeux beaucoup plus complexes. Et ce qui est la situation des différents niveaux impliqués dont je vous parlais. Mais ce qui m'intéresse maintenant est précisément ce stade intermédiaire qui est aussi quelque chose qui est un stade où les enfants répètent des phrases, des propositions qui n'ont pas l'air de comprendre avec beaucoup de profondeur. Ils les ont pris d'autrui, mais ils ne les ont pas fait leur, d'une certaine manière. Si on repense en termes de diffusionnisme, évolutionnisme, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obtenu leur information ou leur création de la diffusion d'autrui, mais c'est resté, si vous voulez, comme entre parenthèses, pour utiliser une phrase d'ailleurs utilisée par Dan Sperber dans ce genre de discussion, mais pas exactement la même, garder entre parenthèses, en suspension, qui d'ailleurs dans ce cas-là, on sait, est gardé entre parenthèses, en suspension, mais qui, après, sera compris plus profondément. Cela m'intéresse particulièrement parce que nous pouvons penser que c'est peut-être que nous avons là un phénomène essentiel de la communication culturelle. Nous avons très souvent tendance à penser, surtout en anthropologie, à penser que la communication culturelle a lieu d'une manière un peu comme on apprend une pratique d'une pratique à une autre par le genre de phénomène que Bourdieu appelle d'une manière extraordinairement vague habitus, on commence à prendre l'habitude de ce que c'est comme ça et puis alors on l'apprend pas vraiment, ça c'est une espèce d'apprentissage graduel, mais que petit à petit on incorpore les informations venant d'autrui par une espèce d'osmose dans le corps, une expression un peu utilisée par les bourdieusiens qui me paraît très bizarre parce que, comme je vous le dis souvent à mes étudiants, dans quelle partie du corps vous parlez ? Est-ce que c'est dans les genoux ou est-ce que c'est dans les cheveux ou... Évidemment, nous parlons d'une transmission qui passe par le système nerveux et par le cerveau, et que dire par le corps est simplement une manière de ne pas penser très loin. Mais je ne dis pas que ce genre de transmission n'existe pas, il existe. Mais au contraire, il faut l'analyser et de dire qu'il est corporel et simplement une manière de brouiller les pistes. Mais il y a aussi, il me semble, une transmission qui se fait par le genre de phénomène dont je parlais, c'est-à-dire qu'on prend d'autrui des propositions qu'on ne comprend pas, qui sont gardées en suspension, mais qui deviendront après comprises, incorporées. Donc, si nous pensons à la relation diffusion évolution, nous voyons que la relation peut être extrêmement indirecte. C'est de la pure diffusion quand on apprend quelque chose et qu'on ne le comprend pas, mais qu'on peut le répéter simplement. Mais après, les capacités modulaires de compréhension individuelle, etc., de l'environnement, tout ça peuvent permettre d'assimiler, si vous voulez, ce qu'on a retenu. Mais ce genre de situation est particulièrement intéressante et importante. Parce que ce qui est assez clair, c'est que vivre en société, comme l'a souligné l'anthropologue Ed Hutchins, c'est s'appuyer sur les connaissances d'autrui. De ne pas savoir, Hutchins a fait une étude d'une équipe de navigation sur un grand navire américain. Et ce qui l'a intéressé, c'est qu'il a démontré comment les gens coopéraient très bien entre eux, mais en ne partageant pas les mêmes connaissances, mais en faisant confiance aux autres gens avec qui ils travaillaient, qu'eux savaient ce qu'ils faisaient. Donc, et que cela est absolument caractéristique de la vie en société, qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les compétences de la vie en société humaine, c'est pas vrai pour les autres animaux. On a besoin d'avoir toutes les compétences nécessaires pour une pratique particulière. On peut coopérer avec quelqu'un à qui on fait confiance, qui sait ce qu'il fait. Et donc, on a cette capacité de prendre des petits morceaux d'informations venant d'autrui sans avoir à les incorporer, et que même cela permet l'opération de la culture et de la société humaine comme ça. Donc nous avons là encore un autre exemple d'une espèce de séparation, si vous voulez, entre pensée et langage, connaissance formalisée, que quand nous observons les phénomènes sur le terrain, que nous pouvons essayer de dépister. Et il faut dire qu'il y a toute une série de phénomènes que nous n'avons pas beaucoup de difficultés à comprendre de cette manière. Les plus évidents sont les espèces de salutations qui sont caractéristiques de toutes les sociétés, mais qui sont particulièrement élaborées dans certaines sociétés. C'est particulièrement le cas à Madagascar. Ça a l'air d'être le cas dans l'Afrique de l'Ouest. Je suis venu en autobus ici et j'écoutais quelqu'un qui venait d'Afrique de l'Ouest, qui parlait sur son téléphone portable à quelqu'un d'autre, et on pouvait voir la longueur des échanges de salutations. Alors ces salutations sont très très intéressantes, ça fait partie de la vie que nous avons, dans toutes les sociétés, parce que d'abord nous pouvons voir que ce qu'elles n'ont pas de sens propositionnel en elles-mêmes. Nous savons que quand on dit bonjour à quelqu'un et on dit comment allez-vous, on n'est pas vraiment intéressé à la question. On n'a pas particulièrement envie qu'ils aient une bonne journée. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on établit un état de communication qui permet de transmettre d'autres communications. Que donc un certain aspect des échanges que nous voyons ne sont pas concernés à la transmission d'informations, mais sont concernés au contraire à permettre que les informations soient transmises. D'une certaine manière, donc, c'est échanges ritualisés, et je vais revenir sur ce mot, ces échanges ritualisés n'ont pas de contenu propositionnel, mais permettent la transmission du contenu propositionnel, et établissent la confiance qui permettra à deux personnes de pouvoir s'adosser sur le savoir l'une de l'autre, qui, comme je viens de vous le suggérer dans l'exemple donné par Hutchins et étudié en tellement de détails, est la base des activités sociales qui ont tout de même un certain degré de complexité, que la vie sociale dépend sur une distribution de la connaissance qui n'est pas individuelle et qui est possible que nous vivons en société, et nous vivons en société sur la base de connaissances de notre société, c'est-à-dire que nous vivons sur les connaissances d'autrui, que nous acceptons sans avoir à les comprendre, et que pour faire cela, nous déclarons une espèce de confiance, nous déléguons, si vous voulez, la compréhension de ce que nous dites, de ce que nous disons et de ce que nous faisons à d'autrui. Donc, vivre en société, une espèce de délégation de confiance en disant, bon, vous savez ce que vous faites, je répète ce que vous me dites, j'agis en termes de ce que vous me dites, je prends comme données vos connaissances et on continue comme ça. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de comprendre pourquoi et comment on fait cela. Donc, il y a dans la communication cette espèce de mélange de déclaration continue de confiance qui permet la nature de la distribution de la connaissance humaine en société. J'ai pris l'exemple assez simple des échanges de salutations qui paraît assez évident comme ce genre de phénomène, mais nous avons aussi sur le terrain des phénomènes qui ont toujours intrigué les anthropologues, surtout les anthropologues qui essayent d'expliquer ce que les gens veulent dire, d'expliquer le symbolisme de ce que les gens font, ce qu'ils ont appelé les rituels. Et ça leur a fait particulièrement plaisir parce que ça a l'air d'être particulièrement difficile. Les gens n'ont pas l'air de trop savoir pourquoi ils font des rituels, ils savent pourquoi ils font des rituels, mais ils ne savent pas pourquoi ils font telle action à un tel moment dans un rituel, pourquoi ils disent telle chose à telle chose. Alors, en général, les anthropologues sont très contents parce que ça leur permet de dire ce qu'ils veulent quand les gens ne leur donnent aucune réponse. Mais la chose que les gens vous disent, qui est un peu énervant parce que ça paraît un peu banal, c'est « on fait ça parce qu'on a toujours fait ça, c'est parce qu'on nous a appris de faire ça, nous répétons les gestes et les actions et les mots qui sont appropriés, et en disant ça, nous faisons confiance à d'autres personnes, à autrui, dans la société, en utilisant des mots qui ne sont pas les nôtres, en faisant des actions qui ne sont pas les nôtres, en répétant, parce que c'est une question de répétition. » Et de cette manière, nous élargissons, nous démontrons et élargissons les gens sur lesquels nous nous adossons. Et à mon sens, le rituel est une espèce de performance, de s'adosser sur autrui. Sur autrui qui peuvent aller bien au-delà du réel, vers des êtres imaginaires, des ancêtres, des dieux, tout ce que vous voulez. C'est un adossement qui va de personne en personne et au-delà, souvent, vers des frontières floues et inconnues. Une déclaration que la connaissance, notre connaissance est limitée, mais que nous espérons que les gens dont les actions et les mots que nous répétons ont des connaissances, alors finalement Dieu ou je ne sais pas trop quoi, auront les connaissances qui garantiront l'efficacité de nos actions. Donc le rituel, la manière dont j'essaye de vous en parler, ne dit pas quelque chose. Quand je pratique un rituel, je ne dis pas quelque chose, je n'exprime pas vraiment quelque chose. Ce que je fais, c'est que je dis je fais confiance à d'autres, en général complètement vagues et peu précis, mais je fais confiance à d'autres qui ont probablement une expertise qui garantit une espèce de vie possible et pratique et confortable. Donc, d'une certaine manière, ce que le rituel démontre, c'est cet aspect de la communication qui me paraît essentiel, c'est-à-dire s'adosser sur les connaissances d'autrui. Donc, dans le rituel, les mots et les théories qui sous-tendent les mots sont divisées. Il se peut que je dise quelque chose, même souvent que je ne comprends même pas le sens des mots littéral, et que ces mots ne sont pas basés sur toute une série de théories, comme les théories qui sont sous-entendues par les concepts dont j'avais parlé, mais que j'espère qu'ils sont basés plus loin dans la chaîne de transmission sur des théories, etc., vers une diffusion ailleurs. Voilà, alors c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vous rappelle le séminaire de demain de Paul Harris. Et Paul Harris est, entre autres choses, une des personnes qui a souligné l'importance de la connaissance que l'on obtient d'autrui en leur faisant confiance. Ce qu'il appelle testimony ou témoignage. C'est-à-dire qu'on croit que quelque chose est vrai sur la base du témoignage d'autrui, qui fait partie de ce phénomène, de ce dont je viens de parler. Merci.